Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et dans quelques jours débute la fête de Hanouka, souvent appelée fête des Lumières. Un des principaux rituels consiste en effet à allumer durant 8 jours, ou plutôt 8 soirs de suite, les bougies d'un chandelier à 8 branches appelé Hanoukia. Avec notre invité présent ce soir et que je salue, le rabbin et chantre Jacques Arnold, nous expliquerons le sens de cette fête, notamment sous un angle musical. En effet, comme pour bon nombre de fêtes juives, la musique est omniprésente durant la période de Hanouka et il ne s'agit pas uniquement de musique rituelle, comme on le verra pendant cette émission. Jacques Arnold, bonsoir.
Bonsoir, oui.
Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots, puisque comme vous le savez, le principe de cette émission, c'est d'être bref, d'être absolument concis et surtout de pouvoir faire entendre à nos auditeurs beaucoup de musique, mais en même temps de leur donner d'informations. Donc en quelques mots, pourriez-vous nous expliquer l'origine historique et le sens de cette fête de Hanouka ?
Eh bien, c'est une fête, en effet, qui est une fête à caractère historique, puisque ce n'est pas une fête qui est mentionnée, elle n'est pas mentionnée dans la Bible, elle n'est pas mentionnée dans la Torah. Elle a été fixée par rapport à des événements historiques, et il s'agit tout particulièrement de l'invasion de l'emprise grecque et syrienne qui était alliée à ces... envahisseurs grecs, c'est contre cette présence, contre cette influence grecque que les Maccabim, dont on va parler dans un instant, se sont révoltés pour laisser à la civilisation hébreu, à la civilisation juive, pour lui laisser l'entière liberté. Et donc ces événements, ce sont des événements historiques qui évidemment ont une dimension religieuse, puisque le point central qui va être mis en danger, c'est le temple de Jérusalem qui va être profané. Alors tous ces événements sont relatés par le Sefer HaMakabim, par le livre des Maccabim, qui est en fait un livre apocryphe, qui ne figure pas, qui n'est pas dans le canon biblique, dans le Tanakh, dans les livres de la Bible, mais ce livre qui à l'origine était écrit en grec, qui se retrouve dans les Bibles chrétiennes, sert de base aux événements qui se sont déroulés en Judée, donc au IIe siècle avant notre ère. On est vers l'an 165 à peu près avant notre ère.
Est-ce qu'on pourrait résumer un peu cette histoire des Maccabées, de Judas Maccabée, en fait, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Donc,
Eh bien, devant cette prédominance grecque et cette culture grecque que certains habitants de la Judée prenaient finalement avec beaucoup de d'intérêt, pour laquelle il y avait une grande affection, la culture grecque, la culture de Yafet, la culture du troisième fils de Noé, et donc avait une grande soulevait une grande admiration pour les Judéens. Et devant cette trop grande attachement devant ce gros trop grand attachement des Judéens pour la culture grecque, eh bien c'est la famille des prêtres, ce sont les Kohanim, la famille de Matathias, l'asmonéen de la famille du grand prêtre, qui va prendre conscience du danger spirituel que cela présente. Ils vont mener une révolte qui va commencer, un 25 qui se lève en quelque sorte, parce que la profanation du temple a eu lieu, l'installation de la statue d'idole dans le temple va avoir lieu, un 25 qui se lève, et ils vont commencer à, devant ce péril qui menace la civilisation judéenne, ils vont mener une révolte qui va partir de la famille des Kohanim, de la famille des prêtres. Et cette influence des prêtres va s'exercer bien plus tard, et même trop tard, on pourrait dire, puisqu'elle va être comme si elle supplante le pouvoir ou la royauté.
D'accord. Donc en fait, c'est une opposition entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, en quelque sorte, enfin, le
oui,
pouvoir des rois.
Ce sont les Kohanim qui vont prendre le dessus, qui vont, sous prétexte que le péril était un péril spirituel, c'est eux qui vont vraiment réagir en prenant les armes, en prenant vraiment les choses...
D'accord.
D'une manière radicale.
D'où le fameux épisode avec donc notamment les Maccabées, et le plus célèbre d'entre eux peut-être Judas Maccabée,
oui,
qui était le troisième fils, Shimon bien sûr, de Matathias Maccabée, qui se révolte et qui, au bout de, je crois, de 3 années, donc parviennent à libérer Jérusalem.
Trois années, donc d'un 25 qui se lève de 3 ans auparavant jusqu'au 25 qui se lève, toute l'histoire va se trouver résumée dans ces 3 années de révolte qui vont se terminer par l'inauguration, la réinauguration, pourrait-on dire, du temple.
Alors, je vous propose justement d'écouter un premier extrait musical, puisqu'on parle de Judas Maccabée. Nous allons entendre l'oratorio Judas Maccabée de Handel, suivi immédiatement d'une chanson israélienne qui reprend exactement le même air, et vous l'entendrez de suite. Je me suis amusé à faire un montage. Venons d'entendre extrait de l'oratorio Judas Maccabée de Handel, l'air de l'acte 3, See the Conquering Heroes Come, suivi immédiatement du même air, mais chanté en hébreu sur une chanson qui s'appelle Havanarima. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jacques Arnold ?
Alors, Havanarima, ner à Hanouka, j'ai entendu dans cette chanson, destinée peut-être plus aux enfants, mais et Havanashira, Shira Hanouka. On a vraiment les deux pôles, les deux points importants de Hanouka. L'allumage des lumières, que l'on évoquera tout à l'heure, mais aussi le fait que Hanouka, c'est une fête pour laquelle on chante beaucoup, on se doit de chanter, on l'a entendu à l'instant, et également tout à l'heure on l'évoquera dans Maosour, Azegmor, Beshir Mizmor, Hanukat HaMizbeach, on est vraiment porté sur ce qui peut donner par la musique une grande solennité à cette fête, puisqu'elle ne contient pas de prière particulière ou d'office particulier, il n'y a même pas de moussaf à Hanouka, puisque ce n'est pas une fête de la Torah. Donc à Hanouka, on met l'accent sur toutes les prières, et notamment le Hallel, comme on l'évoquera aussi, en leur donnant toute l'amplitude, toute la largesse qu'il faut. Et il est une tradition très forte à Hanouka, dans de nombreuses communautés, que le cinquième jour, on donne une certaine solennité à l'office du soir. C'était le cas dans les grandes communautés, Varsovie, à Odessa. Il y avait des soirées de musique liturgique, synagogale, comme le rappelle Mordechai Sobol dans un petit opuscule que j'ai eu l'occasion de consulter. On a retrouvé des affiches, des articles dans la presse, invitant les communautés à Hanouka pour une grande manifestation musicale. C'est la fête de la musique, pas en plein été, mais en plein hiver.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs, parce qu'on a également des auditeurs non-juifs qui ne connaissent pas exactement cette fête, on parle du miracle de Hanouka, on parle des bougies, alors juste leur rappeler, en fait, ce miracle qui a eu lieu, c'est tout simplement qu'après la libération du Temple de Jérusalem, une fois qu'on l'a réinauguré, il fallait rallumer le chandelier, et il y avait besoin d'huile sainte, qu'il fallait normalement 8 jours pour fabriquer cette huile sainte, et qu'on a trouvé une fiole ne contenant que la possibilité d'allumer ses bougies un jour, et que on a donc allumé le chandelier avec cette fiole, et donc d'huile, et le miracle s'est produit. Cette fiole a duré 8 jours au lieu de 1, le temps de refaire de l'huile sainte. Et c'est pour ça qu'en souvenir de ce miracle-là, on allume durant 8 soirs de suite les bougies de Hanouka.
En effet, c'est là aussi, cette huile, c'était le grand prêtre qui l'a préparait, et les Grecs, eux, ne comprenaient pas qu'il y ait une huile pure ou une huile impure. Pour eux, de l'huile, c'est de l'huile. Ils n'avaient pas saisi que le cachet du grand prêtre sur une fiole, cela avait de l'importance, donc ils avaient tout détruit, sauf une qui, miraculeusement, alors c'est le double miracle. Le miracle de la fiole d'huile, mais aussi le miracle des moins nombreux, comme on le dit dans la prière de Al-Anissim, des moins nombreux sur les plus nombreux, des purs sur ceux qui prônaient que des valeurs impures. Et c'est ce double miracle de la fiole d'huile qui est le miracle, je dirais, religieux, mais également il a fallu passer par une lutte, un combat physique, et ce sont là ceux qui avaient le moins de chance, qui avaient apparemment le moins de possibilités de vaincre, qui ont pu vaincre.
Et cette victoire apparemment était tellement éclatante que justement, je crois que vous m'avez dit lors d'une de nos discussions pour préparer cette émission qu'un des préceptes de Hanouka, c'est que cette fête doit être visible. C'est pour ça que partout où on peut, et en Israël notamment, le chandelier, on le met à la fenêtre. Donc partout, c'est une fête magnifique. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la fête des Lumières. Et, et d'ailleurs, une chose intéressante, vous m'avez dit que généralement, les bougies, l'allumage des bougies, c'est une coutume répandue dans la tradition juive, puisque on les allume tous les Shabbats, le vendredi soir.
En effet, c'est dans le traité de Shabbat, dans le Talmud qui se préoccupe de l'allumage des bougies de Shabbat, que se trouve énoncée l'idée de Hanouka. Et les sages, à partir du traité de Megillat Ta'anit, déjà qui contient cela, il y a un traité talmudique très ancien qui fait mention du 25 Kislev comme étant une date de fête à cause de ces événements, ayant ces événements des Maccabim pour origine. Et on trouve donc une espèce de parallèle entre l'allumage des bougies de Hanouka qui se fait en famille avec le père, le chef de famille qui allume pour toute la famille, Ish ou Beito, l'homme et sa maison, tandis que le Shabbat, c'est un allumage que réalise plutôt la maman et qui va lui aussi illuminer la maison, mais il s'agira d'une illumination pour donner davantage de paix, davantage de quiétude, tandis qu'à Hanouka, c'est un allumage qui rappelle le miracle, qui redonne cette dimension du miracle, puisque cette fête a lieu 8 jours, le 8e jour, la dimension du 8e, c'est la notion du miracle, de quelque chose qui s'ajoute aux 7 choses, aux 7 éléments, qui sont les éléments naturels, comme les 7 jours de la semaine.
Alors, puisqu'on parle d'allumage, on va écouter tout de suite la bénédiction, Bamé Madlikin, restée ici à Bayonne, en 1950. Lors d'un office de Shabbat. Rami Madlikin, chantée ici par Alfred Herrera à la synagogue de Bayonne en 1956. Cette prière nous montre bien donc la coutume juive d'allumer les bougies, et coutume qui s'appliquait ici dans la fête de Hanouka durant 8 soirs de suite. Jacques Arnold, donc vous avez dit que le culte, la liturgie diffère très peu dans cette fête, mais par contre à la maison, dans ce qu'on appelle le culte domestique, il y a donc ce rituel de l'allumage des bougies.
Voilà, c'est en effet le point central de la célébration de Hanouka, puisque ce n'est pas un jour férié. On peut travailler, on peut se livrer à ses activités habituelles, et tout le rite, le temps fort de Hanouka, c'est essentiellement à la maison que cela se passe. Dès que la nuit est tombée, sans plus tarder, on allume chaque soir une bougie supplémentaire. Premier soir, puis deuxième, on en ajoute à l'aide du shamash. Alors, le texte talmudique, quand on le voit sur les quelques pages 21 et suivantes, nous donne les détails. Et nous suivons scrupuleusement ces détails. On choisit l'huile qu'il faut, des bougies, on les aligne selon un certain ordre, on procède à l'allumage en commençant par la gauche, puis on se dirige vers la droite, il y a une augmentation qui se fait, etc. L'utilisation du shamash, le fait de ne pas avoir le droit de les utiliser, et là l'irotam bilvad, il ne faut que simplement les voir, ne pas s'en servir pour quelque usage que ce soit, même pas pour allumer l'une l'autre. Je ne vais pas énoncer toutes les lois qui sont très précises, mais cela nous montre le caractère particulier et l'importance que l'on donne à Hanouka, qui est finalement une fête issue de l'importance qu'avait le temple, de la sainteté du temple de Jérusalem, de cette centralité du temple.
Et puis peut-être de la résistance du judaïsme à toute tentative d'annihilation. Un peu comme un parallèle avec la fête de Pourim, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Oui, mais d'ailleurs dans Maos Sour on en parlera, puisqu'on évoquera toutes les embûches, toutes les difficultés que le peuple juif a connues au travers de son histoire, depuis les Égyptiens, etc. Mais en fait, à Hanouka, c'est la fête par laquelle on essaye de se rappeler ce qu'était le temple de Jérusalem. Nous avons comme cela dans le calendrier plusieurs éléments qui nous rappellent que ce soit par exemple à la synagogue lorsque nous faisons Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, eh bien c'est pour nous rappeler l'usage dans le temple des prêtres qui bénissaient le peuple. Lorsque nous faisons à Pessah, nous mangeons comme Bisman chez Bet Amidash Kayam, nous mangeons des herbes amères avec la matzah, etc., comme du temps où le temple existait. Lorsque nous faisons la prière, nous le faisons comme les sacrifices, à la manière que s'effectuaient les sacrifices, avec chacun des offices correspondants. Lorsque nous faisons les hakafot à Sukkot, nous tournons autour du tabernacle, eh bien, ça nous rappelle les hakafot du temple. Il y a beaucoup, comme la Sfirat HaOmer, le conte du Homer, tout cela nous rappelle la période où le temple existait. Donc Hanouka, c'est un espèce de grand monument, de fête très marquante, pour nous dire le temple, ne l'oublions pas, il est toujours présent en nous. Il y a encore une flamme qui se maintient en nous pour appeler le temple.
Alors le temple, ne l'oublions pas, mais le temps non plus, ne l'oublions pas, parce qu'il passe très vite. Et donc nous allons parler de cet hymne Maos Sour dont vous nous avez juste parlé avant. Maos Sour, c'est un hymne très particulier, puisqu'il est chanté sur une mélodie que l'on retrouve quasiment dans toutes les communautés juives au monde, ce qui est en fait une rareté, parce qu'à part peut-être le Kol Nidre qui est commun à toutes les communautés ashkénazes, le Maos Sour, on le trouve non seulement chez les ashkénazes sur la même mélodie, mais il est aussi chanté chez les séfarades. Donc comment peut-on expliquer ça? D'où provient cet hymne et sa mélodie? On a fait des recherches tous les deux, on peut peut-être livrer le fruit de nos recherches à nos auditeurs en quelques mots. Jacques, qu'est-ce que vous avez trouvé sur cet hymne?
Tout d'abord, il remonte en effet au Moyen-Âge. On a le nom de son auteur que l'on ne connaît pas complètement, puisque dans l'acrostiche des strophes de ce poème, en quelque sorte, ce poème liturgique, on ne trouve simplement que Mordechai. Et donc il s'agit d'un très ancien texte qui aurait été écrit aussi à la période des croisades. Et dans ce texte, on évoque justement Becholdor Vador Omdim Aleinu Lechaloteinu, comme on dit à Pessah, c'est-à-dire en chaque génération, il y a eu des ennemis, des civilisations qui ont voulu s'en prendre à nous. Alors on parle de Chel Paro, Vechol Zaro, du pharaon, des Égyptiens qui ont livré les Hébreux à l'esclavage. On nous parle également de Haman Ben Hamdata, de Haman à Purim, et puis également de Yevani et des Grecs qui se sont ligués contre nous. Donc il y a toutes les persécutions qui sont relevées, qui sont reprises dans ce poème, pour arriver vers l'idée de délivrance qu'on va trouver à Hanouka comme très persistante dans tous les hymnes, dans pratiquement toutes les célébrations qui se rattachent à Hanouka. On voit poindre, et on le verra même dans l'histoire de la toupie qu'on fait tourner, il y a l'idée de nous amener vers ce moment de délivrance, puisque nous le disions tout à l'heure, c'est le huitième jour, c'est l'étape numéro 8, c'est ce qui vient après le temps cyclique normal des 7 années, des 7 mois, des 7 semaines, des 7 jours. Et là, on est dans la dimension huitième qui nous mène vers la Géoula, vers le temps messianique finalement.
Alors, si vous me permettez un petit détour rapide, ça me rappelle toujours cette histoire juive drôle que l'on raconte, où on dit, comment on peut résumer les fêtes juives, très simplement, on a failli nous exterminer, heureusement Dieu est intervenu et nous a sauvés, alors mangeons. Sauf que là, c'est pas alors mangeons, mais c'est alors chantons et allumons les bougies pour Hanouka. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent dans les fêtes juives. Et à propos de chanter, moi je voudrais juste dire que du point de vue musicologique sur Mao Tsur, mes quelques recherches que j'ai menées, parce qu'on se pose toujours des questions sur l'origine de cet air. Certains disent qu'il est issu d'un choral protestant. En fait, j'ai recherché, j'ai trouvé effectivement un choral protestant qui commence pareil, mais c'est juste trois premières notes. On ne peut pas dire que c'est vraiment le choral protestant, qui s'appelle « Nun freut euch ihr frommen Christen ». Mais il y aurait un mélange de ce choral protestant avec un chant de guerre et un chant d'amour. Alors, voyons, on est dans des supputations très lointaines.
C'est vrai qu'il y a deux parties.
Il y a même deux moments dans le refrain,
oui, qui sont...
Tout à fait.
On retrouve cela aussi, je l'ai entendu d'un musicologue, de Léon Elgazi, qui nous disait que cela ressemble à certains Noël provençaux, où il y a des musiques semblables, et des musiques
tout à fait.
Très lentes au départ.
Une autre explication de Idelson, ça remonte quand même déjà loin, dit qu'on trouve le même air, ou quasiment, dans un manuscrit toujours chrétien de Bohême et de Silésie, donc il apparaît pour la première fois noté en 1474, sur une mélodie d'église qui s'appelle « Patrem Omnipotentem », donc le Père Tout-Puissant. Toujours est-il que la première fois qu'on le trouve vraiment noté sur un manuscrit hébraïque, c'est uniquement à partir de 1744, donc dans le manuscrit de Elias de Hanovre. Et encore est-il, l'air de Mao Tsur est-il plaqué sur un hodou, mais un hodou de la fête de Hanouka. Donc, par rapport à l'origine de cet air, tout est possible, et à la fois, il est absolument impossible de déterminer de façon certaine l'origine de cette mélodie. Notons juste une dernière chose, c'est que malgré ce caractère un peu guerrier, ce caractère très, c'est vrai, choral de cette mélodie, il y a eu des tentatives, vous me l'avez dit lorsqu'on en a parlé, pour substituer à cet air d'autres airs. C'était le cas notamment d'air composé par Benedetto Marcello, donc on en a parlé lorsqu'on a parlé d'Alcan, au XVIIIe siècle, qui avait écrit un Nestro Armonico, composé en 1724-1727 sur les psaumes hébraïques. Et je vous propose d'écouter tout de suite
plaisir.
Ces deux versions,
c'est
donc les Mao Tsur en version classique.
Qui a essayé de supplanter dans bien des endroits, dans bien des communautés, de supplanter le Mao Tsur classique qui est Ashkenaz, qui celui-ci est beaucoup plus vivant. Mm-hmm. Et certains Chazanim ont aussi essayé, sur au moins une strophe, de donner une version liturgique que nous n'aurons peut-être pas le temps d'écouter ce matin.
Je le crains, mais on écoute les deux versions. Donc la version classique du Mao Tsur précédée de la première bénédiction, puis la version de Benedetto Marcello.
Yeah.
d'entendre successivement donc le Mautzour dans sa mélodie classique précédée de la première bénédiction interprétée par Michel Heyman dans son CD Air liturgique ashkénaz traditionnel, suivi de la deuxième version du Mautzour donc composée par Benedetto Marcello, interprétée ici par le chœur de la synagogue d'Anvé des États-Unis. Jacques Arnold, puisque l'on parle de psaumes, il faut mentionner également le fait que lors de l'allumage donc des bougies, toujours à la maison, on chante le psaume Mizmor chez Chanukat HaBayit, qui s'applique parfaitement donc à cette fête juive, puisque c'est l'inauguration de la maison, donc l'inauguration symbolique du temple, que je vous propose d'écouter dès à présent donc dans une version marocaine interprétée ici par Rabbi David Kadosh.
מזמור של חנוכת הבית לדוד ארום ממך אדוני כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי אדוני אלוהי שבעתי אליך ותרפאני אדוני הענית מן שאול נפשי, היתני מירא דיבור, זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו, כי רגע באפום חיים ברצונו, בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלוי בלמות לעולם.
Nous venons d'entendre le psaume Mizmor chez Chanukat HaBayit dans la tradition marocaine de David Kadosh. Jacques, je vous ai vu hocher la tête pendant que je parlais de cette liturgie, de ce psaume. Je pense que vous voulez absolument nous apporter quelques précisions.
Oui, on peut simplement dire que la récitation du psaume 30 que nous venons d'entendre, c'est l'usage surtout dans les communautés séfarades. Dans les communautés ashkénazes, on n'avait pas l'habitude de le réciter. Quant à Mautzour, ce poème que l'on évoquait tout à l'heure, c'est plutôt le poème qui vient couronner en quelque sorte l'allumage des bougies. Mais je crois que ces deux traditions ont eu des passerelles et on a l'habitude aussi dans beaucoup de communautés d'entendre Mautzour. Il est certain que la deuxième version italienne des juifs tedesco, c'est-à-dire des juifs d'Italie, était beaucoup plus, mesurée que la première version. Il faudra beaucoup de travail pédagogique pour que dans les communautés, on passe à un autre air de Mautzour qui soit moins imprégné de cultures étrangères et trouver peut-être quelque chose de plus original. En tout cas, à Hanouka, on a aussi le temps fort qui est celui de la récitation du Hallel qui se fait tous les jours dans la prière du matin. Alors, c'est vrai que la prière du matin est toujours un peu rapide, on ne peut pas s'étendre longuement, mais il y a des versions de Hallel qui sont très vivantes et qui sont très appropriées pour Hanouka. Peut-être pouvez-vous en entendre
une. Tout à fait, vous nous en avez apporté une tout à fait étonnante. Je vous propose de l'écouter dès maintenant et puis on va en parler après.
Hashem kol goyim shabechu 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 kolumim shabechu kolumim ki govar oleinu ki govar oleinu astoy ve'emes 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 Hashem le'yoylom le'yoylom halleluho oydu 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 Hashem Itoim ki leyoylom hasnoy yoymanu 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 yoymarno yoymarno Yisroel ki leyoylom ki leyoylom ki leyoylom ki leyoylom hasnoy
Yo Oui, voilà, un hallel bien étonnant.
Très entraînant.
Oui, on a pour le moins envie de danser, de valser. On se croirait presque au concert du Nouvel An de Vienne. Il s'agissait de la version donc, du Alleluette Hachem Kol Goyim, le psaume 117, interprété ici par Meir Elfgott, un chazan bien connu aux États-Unis. On voit là cette, presque, cette envie de s'amuser, cette presque obligation, comme à Purim, de s'amuser à tout prix. Alors on s'amuse et puis on ajoute aussi parfois dans la liturgie des poésies religieuses, comme c'est le cas en Alsace, avec une poésie un peu particulière, le Schnee Zetim. Ça, juste avant qu'on l'écoute, ça veut dire quoi exactement?
Alors, en effet, il y a dans Shacharit du Shabbat de Hanouka, donc on introduit des poèmes religieux qu'on appelle les Piyutim, qui sont placés vraiment dans la récitation de la prière, et ils ont été composés, en général on admet, au 10e, 11e siècle par Kalir, un païtan aussi de cette époque, qui servent aux fidèles en quelque sorte à prendre conscience que l'on est dans un jour de fête. Alors ce Schnee Zetim, ce sont les deux branches d'olivier qui se trouvent décrites dans la prophétie de Zacharie, qui est lue d'ailleurs ce même Shabbat, qui représente le chandelier qui était alimenté par l'huile de ces deux rameaux d'olivier. C'est ce que l'on retrouve sur l'emblème de l'État d'Israël. D'ailleurs, c'est cette image qui a été prise, c'est ce symbole qui a été pris pour marquer l'emblème de l'État d'Israël. Et Schnee Zetim, ce sont ces deux branches qui vont redonner à la menorah sa lumière, et le prophète Zacharie le décrit de cette manière comme étant la menorah du futur.
Alors, je vous propose de l'écouter de suite, interprété ici par la voix lumineuse d'Adolphe Attia. Un bref extrait de ce Schnee Zetim, donc du CD Musique judéo-française des 18e et 19e siècles, interprété par Adolphe Attia. Et comme on l'a dit, donc Hanouka est une fête joyeuse qui a donné lieu, d'ailleurs tout comme à Purim, à de nombreuses chansons ou airs à danser. Et j'ai fait une compilation donc de ces meilleurs moments, je dirais, en tout 5 extraits, c'est extrêmement frustrant pour moi, mais 5 extraits qui vont nous faire voyager dans l'univers musical de cette fête de Hanouka en Turquie, en Espagne, dans le Yiddishland, au pays des Klezmer ou encore au casino avec le chanteur juif algérien Blon Blon.
Da kiltas to maltas, da kiltas to maltas, las muchachas meten vas en Shabbat de Hanuka, leatlik ner shel Hanuka. La gallina de la cocina, la gallina.
Candelitas, tres candelitas. De Saragosse, et puis tu as rencontré la belle Marie Laforêt. Viens, la Rebecca, allume la Hanouka, au son de la Darbouka, Andarble la Tahrika, Osmiha, Ofriha, li Amlouna le Fniha, Na'atilhou Mutriha.
Une compilation, non pas de 5, mais de 6 morceaux, donc de chansons et airs de Hanouka, 2 dans la tradition séfarade, 2 dans la tradition, 3 plus exactement ashkénaze, et 1 de Blonblon. Blonblon, ce chanteur algérien dont nous avons parlé. Et d'ailleurs, cette chanson nous rappelle qu'il est d'usage de jouer, vous nous l'avez dit, à toutes sortes de jeux. Alors, on peut jouer, évidemment, faire le banco comme Blonblon dans les casinos, mais les enfants, surtout, parce que c'est quand même leur fête, ils jouent à toutes sortes de jeux, ils jouent, je crois, avec des... Toupie, il me semble.
Et tous les jeux Hanouka sont permis. On va en voir les raisons. Là, on a eu un jeu musical sans transition avec toutes sortes de gens. En effet, lors de la présence grecque qui avait interdit l'étude de la Torah, il y a une légende qui dit que pour faire comme si de rien n'était, les enfants jouaient à la toupie, à des jeux. Et c'est pour ça que les jeux sont admis à Hanouka. Aussi, pendant que les bougies brûlent, on ne peut pas se livrer à vraiment des activités. Donc, on joue pendant ce temps-là. Et tout particulièrement, au jeu de la toupie sur laquelle se trouvent 4 faces avec 4 lettres qui sont les initiales de Nes Gadol Hayasham, il y eut là-bas un grand miracle. Et ces 4 lettres forment le mot Goshna que l'on a lu dans la section sabbatique de Hanouka, dans la parasha de Vaïgash qui suit immédiatement Hanouka. C'est lorsque Jacob a envoyé son fils Judas à Goshen, dans la contrée d'Égypte. Et ce mot Goshna a pour valeur numérique 358, qui fait que c'est la valeur numérique également de Mashiach, du Messie, de la délivrance. Donc on retrouve ici cette connexion de Hanouka avec cette idée de délivrance qui doit marquer ce temps après toutes les difficultés, toutes les persécutions que l'on a. Il faut qu'il y ait un temps de lumière, un temps vers lequel on sorte vers cette délivrance tant attendue. C'est ce que l'on retrouve dans bon nombre de poèmes qui sont récités à Hanouka. Même le Shabbat Hanouka, il y a un mizmor particulier pour cela.
Donc, on va finir avec cette chanson, ou plutôt 2 chansons enfantines. Donc, la toupie, Sovivon, Sof, avec enchaîné la recette des beignets, parce que c'est la tradition également de manger des friandises à base d'huile, donc de beignets, les souffgagnottes. Donc, 2 chansons de suite, Sovivon et Kemar.
Bye.
Sov Ivan, Sov 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 et Kemar, deux chansons enfantines extraites du CD Chansons de Hanouka distribué par Nes Music. Chers auditeurs, notre émission se termine maintenant. Et en votre nom, je remercie infiniment Jacques Arnold qui a préparé donc cette émission avec le sérieux et la modestie qui l'anime. Grâce à lui, je pense que nous sommes fin prêts pour célébrer dans la joie et la bonne humeur et la musique cette fête de Hanouka. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur notre site www.cfmj.fr ainsi que sur le site judaïquefm.fr. comme dans la rubrique podcast. En plus des musiques que vous avez écoutées ce soir, vous pourrez trouver quantité d'autres airs en consultant nos collections en ligne, donc sur le site de l'Institut européen des musiques juives ou en nous rendant visite. Je rappelle à ce propos que l'Institut européen des musiques juives recherche régulièrement des bénévoles pour l'aider dans son travail de sauvegarde et de valorisation du patrimoine musical juif. Vous pouvez donc nous contacter à travers notre site ou par téléphone au 01 45 82 20 52. Au micro Hervé Roten, David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Et un bon Hanouka.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were my